cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Tobias Richter.
Bonjour.
Alors vous êtes, on n'est pas venu vous voir à Genève, mais c'est vous qui êtes à Paris. Alors on profite de votre passage à Paris pour parler peut-être déjà de la nouvelle saison du Grand Théâtre de Genève. Vous attaquez votre seconde saison dans cette prestigieuse maison. Alors on sait en général que les saisons se construisent longtemps à l'avance, donc plus évidemment on va avancer, plus les saisons auront votre patte, votre touche personnelle. Quel bilan déjà vous tirez un peu de la première saison que vous avez passée à Genève ?
Le bilan est très positif parce que j'ai eu un défi d'abord de réaliser au mieux les projets quasiment finalisés par Jean-Marie Blanchard, parce que c'était des très beaux projets, et en rajoutant des projets qui faisaient carrément une saison avec beaucoup de couleurs différentes. Notamment, j'ai rajouté quasiment exclusivement des ouvrages qui n'ont jamais été donnés par les grands théâtres de Genève. J'aurais dit presque sur la scène à la Place Neuve, c'est la grande salle, mais à Genève, on a aussi un très très joli théâtre depuis quelques années, c'est les anciennes forces motrices qui donnent un lieu absolument magique, et c'est là qu'on a fait la Callisto de Cavalli. Alors, ces mélanges, c'était quand même un défi, parce que je ne savais pas si le public allait suivre. Et je savais aussi, par le choix des metteurs en scène, c'était un peu, comme je disais, une autre patte. Mais c'est une saison transitoire. Je pense qu'on a eu une excellente réaction de la part du public. On a augmenté les abonnements de presque 8%. On a une excellente relance de saison au niveau des abonnements déjà maintenant pour la prochaine. Ça montre quand même que ce genre de programmation va attirer du monde. Mais il était moitié des projets qui étaient déjà là, et moitié on avait de nouveaux projets à proposer. Maintenant, la saison prochaine, 10-11, c'est, à une exception, quasiment la programmation de la nouvelle équipe, de mon équipe. On commence peut-être un peu tôt, début septembre, en Suisse, à Genève. La rentrée scolaire, ça se fait après la mi-août. Pour que les choses de la vie quotidienne se mettent en place, il faut quand même un certain temps. Il ne faut pas oublier que Genève, il y a le lac. Quand il fait beau, on est encore un peu dans l'ambiance de vacances. Voilà, nous commençons donc début septembre avec une nouvelle édition de Barbier de Séville. Barbier de Séville qui, d'abord, on a toujours le problème, est-ce que quelle version il joue? Il y a une version pour le protagoniste, le soprano, c'est une soprano colorato, ou l'autre, le même personnage, c'est une voix plutôt grave. Alors on dirait que c'est la femme un peu mûre, la femme déjà expérimentée. Mais on a une équipe, jeune metteur en scène Damiano Micheletto, qui viendra donc, j'espère, souvent à Paris, bientôt à Paris. qui va mettre en scène, et Alberto Zeda, grand chef, musicologue, connaisseur Rossini, Rossinian et directeur artistique du Festival de Pesaro, il va diriger. Et comme Zeda a découvert à l'époque Micheletto, c'est quand même une équipe déjà expérimentée pour la première fois donc, à Genève, pour un projet qui est un projet à deux. C'est-à-dire on jouera donc les deux distributions différentes en alternance, ce qui est un peu inhabituel pour Genève. On a normalement juste une distribution qu'on joue un certain nombre de fois et puis c'est fini. Après, il y a Electra de Richard Strauss, également une nouvelle production.
Je crois d'ailleurs, en petite parenthèse, je crois que c'était votre première mise en scène dans les années 80, c'était pas cette opéra
d'Electra ?
Oui.
Non.
L'une des premières, non ?
L'une des premières, oui. Bon, mais Electra, depuis les années 70, c'est déjà la troisième production qu'on fait au Grand Théâtre. Mais naturellement, comme c'est un des chefs-d'œuvre du répertoire allemand, où on se fait toujours d'avoir des grandes chanteurs, chanteuses. Mmh. Dans ce cas-là, il y a Jean-Michel Charbonnier et surtout Eva Marton comme Clytemnestra. Et la Charbonnet et Marton ensemble, ça c'est quand même formidable de les avoir les deux. Ça va se suivre. Et puis, pour fin d'année, il y aura une Veuve Joyeuse, version genevoise, multilingue, avec une distribution un peu particulière parce que c'est le couple, la veuve, comte Danilo, c'est Annette Dash et Johannes Martin Krenzle, mais Valenciennes et Zeta, c'est normalement chanté par une soubrette, c'est Jennifer Larmour, c'est la grande star du répertoire Rossini, du bel canto, et José Van Damme qui revient à la scène à Place Neuve. Alors ça, c'est comme un spectacle très particulier qu'on va donc préparer et présenter en fin d'année. Après, dans la suite, il y aura Les Puritains, c'est encore un spectacle imaginé par Jean-Marie Blanchard, de Bellini, et suivi par une version extraordinaire, Orphée d'Eurydice, de Gluck, dans la version de Berlioz, mise en scène par le grand chorégraphe et homme de théâtre, Mats Eck. Mats Eck, connu partout au monde, naturellement aussi à Paris.
Oui, tête de la ville régulièrement.
Exactement, oui. Et Mats Eck, ça on sait un peu moins en dehors de son pays natal. C'est également un grand directeur, un grand metteur en scène du théâtre. Et là, il a fait sa première mise en scène d'opéra. C'est donc sur le thème le plus ancien pour le théâtre, Orphée. Et il va faire cette version donc pour Genève. Suivi par Punch and Judy. Punch and Judy, ça c'est l'opéra créé il y a 40 ans par le compositeur anglais Harrison Birtwistle qui a créé une œuvre sur l'histoire de... En France, on connaît des guignols. En Russie, c'est Piroshka. Il y a quasiment dans chaque culture, on connaît l'équivalent de ça. Non, pas Piroshka, c'est Petrushka, excusez-moi, ouais, Petrushka. Et en italien, c'est le Pulcinella. Et cet opéra, ça a été créé, cette production a été créée à Londres il y a 2 ans, qu'on va présenter justement dans notre autre salle, le bâtiment Force Motrice. C'est donc une salle où à l'époque, on alimentait avec l'énergie la ville et qui est devenue finalement, heureusement, un théâtre. Et on fait encore Les Vêpres siciliennes en langue française et, pour conclure la saison, L'amour des trois oranges dans la dernière mise en scène d'opéra du légendaire Benoît Besson. Benoît Besson, grand homme de théâtre qui est né pas très loin de Genève, qui a marqué pendant tant d'années la vie théâtrale de la Comédie de Genève et ancien collaborateur du grand poète écrivain Bertolt Brecht à Berlin dans les années 50. Alors Benoît Besson a créé ce spectacle selon la pièce de théâtre de Gozzi, Commedia dell'arte, sur l'amour des trois oranges. Et ça, on va donc présenter, et parce que Benoît Besson, qui nous a quittés il y a quelques années, a créé cette production ensemble avec Ezio Tofoluti, décorateur, metteur en scène, et celui-là va donc reprendre cette mise en scène pour faire la version genoise en fin de saison 10-11. Voilà, c'est la saison lyrique un peu ce qu'on va présenter. Il y a peut-être encore à noter, le chef d'orchestre de cet Amour des Trois Oranges, ça sera le grand Michael Pletneff, connu comme pianiste, compositeur, chef d'orchestre. Mais c'est plutôt rare qu'il a le temps de se consacrer entièrement à une production d'opéra, alors on se réjouit de l'accueillir chez nous.
Quand on prend en main comme ça une maison aussi prestigieuse, il y a un peu deux aspects. Il y a l'héritage de cette maison, son passé, et après il y a vous, votre parcours personnel. Ouais. C'est pas évidemment le premier théâtre d'opéra que vous dirigez. Comment cette nomination, comment maintenant ce poste arrive dans votre carrière à vous personnellement par rapport à vos travaux passés, que ce soit à Brême, à Düsseldorf, à Kassel?
Mais pour moi, le mandat Genève, c'est quand même assez particulier parce qu'il y a un côté, comme vous le disiez, très juste, il y a un côté très personnel, presque un peu sentimental, parce que c'est à Genève où j'ai commencé mon parcours professionnel. J'étais donc engagé pour la première fois en 72-73, et c'est relativement rare. Qu'on sera appelé un jour en qualité de directeur général à la même institution. Alors, à Genève, c'était vraiment par hasard, c'était la coïncidence. Ce poste était vacant, ils cherchaient quelqu'un. C'était au moment et que moi, j'avais envisagé de changer après quand même pas mal d'années à la tête d'une institution pareil peut-être en Allemagne. Il faut savoir que le système d'opéra dans le monde germanique se distingue beaucoup du système qui est pratiqué dans les pays latins, parce qu'en Allemagne, vous avez quasiment tous les soirs un autre spectacle. Dans les pays latins, vous connaissez ça peut-être à Paris, mais en principe, on n'a pas l'habitude de travailler avec une troupe, avec un répertoire, avec le fait qu'on est en alternance quasiment tous les soirs un autre spectacle. À Genève, on suit le stagione qui vient de l'Italie, On prépare une production, elle sera jouée autant de fois, et après vient le spectacle suivant. Ça, c'est un grand défi artistique, dans la mesure que dans le système germanique, on imagine une programmation toujours sur une troupe d'artistes qu'on connaît, qu'on a déjà. Alors, on fait pour les artistes une programmation. Et dans le stade jaune, c'est le contraire. Vous n'avez rien. Vous avez juste une ville, un public. Vous avez quelque chose en tête. Vous voulez peut-être jouer. Et après, il faut chercher la distribution. Alors, on n'a rien sur place. On peut rêver, on peut imaginer ce qu'on veut. Et après, on cherche les gens qu'on imagine pour distribuer un ouvrage. Souvent, ils ne sont pas libres. Alors, il faut quand même un travail énorme. Et après, quand on a tous les éléments, il va falloir convaincre le public d'accepter ce choix et également de trouver de donner un accueil aux artistes qu'on a engagés. Mais il n'y a pas déjà un lien naturel avec les artistes et ce public, ce qui est différent par rapport au système germanique où vous avez quand même un public qui a l'habitude au cours de l'année de voir le même artiste dans plusieurs rôles à plusieurs occasions de la saison. Les deux systèmes ont des avantages, c'est beau, mais pour moi personnellement, quand vous me demandez un peu mes motivations, c'est que c'est, à part le fait que je retrouve un peu mes origines, c'est là où j'ai trouvé un grand défi artistique.
Justement, par rapport à ces débuts, donc dans les années 70, comment vous, en tant que presque, j'allais dire, d'un côté homme de théâtre d'opéra et même mélomane, comment vous avez vu l'évolution de ces 40 dernières années dans le monde d'opéra de différentes manières, c'est-à-dire tant au niveau du public, de l'évolution du public, des goûts, des modes, et vous en tant que, j'allais dire, derrière le décor, en tant que l'évolution des systèmes, de part notamment les spécificités, certes, comme vous venez de les évoquer, mais globalement, comment vous avez vu un peu ces...
Écoutez,
ces
je pourrais peut-être faire deux, trois observations qui étaient quand même assez marquantes. C'est-à-dire, depuis le début des années 70, on a quand même vu évoluer comme vous le disiez, des modes. Notamment, tout le répertoire de baroque était donc découvert. Mais découvert en même temps avec un style d'interprétation qui a pas mal d'occasions devenu quasiment une mode. Parce qu'une mode dans la mesure qu'il y a juste une seule religion, comme on... je trouve aussi, une fois que cette mode retrouve un peu une vie plus normale, on va constater que cette vague a laissé énormément de belles choses. Et alors, je ne suis pas du tout contre, mais je dis simplement, il faut que cette vague retrouve sa normalité, qu'il y a toujours plusieurs façons à interpréter des ouvrages, peut-être qui ont été découverts, redécouverts à travers ces spécialistes qui sont nés pendant ces années-là. Et naturellement, il y a un énorme nombre d'ouvrages qui ont été quasiment oubliés, qui font partie aujourd'hui d'un répertoire plutôt habituel. Alors le public vient écouter ces ouvrages. Il y a également constaté, naturellement, dans la musique contemporaine, ils se sont concrétisés un peu les styles. Mais également, on s'est éloigné un peu ce qu'on appelle surtout dans les pays germaniques, un peu du postmodernisme. Il y a eu une évolution dans la forme, dans la création, qui a trouvé quand même sa place quasiment dans dans tous les théâtres à travers les cultures qui sont quand même qu'on retrouve en Europe. Naturellement, les années ont été marquées par les hauts et bas de la crise et la hausse dans l'économie. Alors, il y a eu une évolution technique et technologique qui a... faut pas oublier que l'informatique et l'informatisation de toutes les installations, tous les outils avec lesquels on travaille aussi dans la production de théâtre a été développée ces dernières 25-30 ans. Alors, ça a quand même changé pas mal le monde et ça a influencé également le style. Et je pense... C'est dans les années 70 que la mise en scène comme élément important pour l'interprétation d'une œuvre lyrique a commencé, son ascension. Mais je pense qu'on a toujours une dominance du parti visuel d'une production. Que je trouve des fois exagéré. Alors, jusqu'aux années 70...
C'est le metteur en scène qui parle.
Oui, tout à fait. Jusqu'aux années 70, on parlait, si on parlait d'un spectacle, on parlait tout d'avant des chanteurs, peut-être des chefs d'orchestre. La mise en scène, vous pouvez lire ça dans les journaux, quand vous avez la critique encore sur papier, vous voyez un peu la place. Je prends dans une critique la partie mise en scène
par rapport à la musique,
et là vous voyez un peu l'évolution. Je pense là on est plutôt en phase où on va retrouver un peu la normalité, hein. Mais là aussi j'ai trouvé les choses ont énormément changé, et le dernier point que j'aimerais évoquer, c'est le comportement du public a changé. Jusqu'aux années 70, même 80, les abonnés, c'était quand même la grande force de chaque institution, d'opéra ou de théâtre, ou même philharmonique. Depuis les années 80, on a constaté un peu partout un recul des abonnés ou, disons, un retrait du public type abonné, parce que nous vivons une société de loisirs et le choix est devenu beaucoup plus vaste. Ce qu'on va faire le soir ou ce qu'on va faire dans son temps libre.
C'est un vaste débat à Paris avec la multiplicité des...
J'imagine. J'imagine. Et naturellement, pour les théâtres, ça a changé le comportement des théâtres. À l'époque, encore à Genève, je peux vous dire, à Genève, c'était impossible d'avoir un abonnement au théâtre parce que les abonnements, c'était totalement saturé. Entre-temps, il y a plusieurs mouvements, il y a eu des changements. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de pouvoir annoncer une croissance des abonnements par rapport aux saisons précédentes, parce que nous avons une autre tendance que la plupart des théâtres en Europe qui doivent se battre pour conserver à peu près le même taux d'abonnement, parce que les gens, quand ils trouvent encore des places le soir, ou aussi aujourd'hui par Internet, c'est plus facile d'acquérir une place et il ne faut plus souscrire par abonnement à quelque chose. Ça change. Pour les théâtres, les abonnements, c'était une partie du budget déjà acquis avant qu'on commence. Et c'était aussi la garantie pour des ouvrages un peu plus difficiles, contemporains, ou peut-être des mises en scène un peu osées, extravagant, d'avoir au moins une jauge déjà qui rassurait les responsables, notamment le directeur général.
Du Hände, so hob der Vater. Mutter, Tochter Klytämnestras, Sie haben etwas Fürchterliches vor.
Die beiden Weiber, nur eine Mutter und jedes andere Weib, die Memme, ein Ägist, der dafür morgen würde.
Was haben Sie denn vor? Sie werfen dich in einen Turm, wo du von Sonn und Mond das Licht nicht sehen willst. Sie tun's, ich weiß es, ich hab's gehört.
Wie hast denn du es hören können?
An der Tür, Elektro.
C'est-à-dire que c'est inquiétant pour l'avenir. Est-ce qu'on est encore dans la... On subit encore, notamment à Genève, la crise encore récente. On a vu pas mal de grandes maisons d'opéra qui se mettent opéra, qui communiquaient sur des suppressions, des réductions de mise en scène, de certains spectacles annulés, etc. Est-ce que...
Bah écoutez, jusqu'à présent, je dois dire, mais il y a toujours des problèmes... Il y a toujours des problèmes d'argent partout. Mais il faut quand même faire la distinction si c'est un problème de structure, ou si c'est un problème temporaire, ou si c'est un problème de la force d'achat sur place. Alors, en Suisse, en général, notamment à Genève, je pense que le théâtre est quand même bien accepté et bien installé dans l'ensemble de la vie sociale de la région, de la ville. Mais il faut à chaque saison, pour les recettes, pas seulement les recettes de billetterie, aussi les recettes par mécénat et partenariat, il faut se battre. Alors il faut communiquer. Alors il faut carrément, on parle aujourd'hui de la communication, on parle de marketing, c'est des termes qui jouent un rôle plutôt... secondaire quand je vais commencer. Aujourd'hui, il faut chaque saison avoir un concept de marketing, il faut avoir un projet de communication, il faut une équipe de communication, il faut des chargés aux directeurs, directrices, mécénat, partenariat. Ça, c'est nouveau.
Ça veut dire qu'un directeur de théâtre comme le Grand Théâtre de Genève, finalement, est comme une sorte de chef d'entreprise
D'une certaine manière, certainement. Et vous avez également le phénomène que votre méthode de gestion, elle est également soumise à un contrôle et également une analyse selon des critères tout à fait professionnels. Au théâtre, nous sommes également une institution qui de prestations. Alors, quand il s'agit de nos structures, à une partie, ils sont même comparables avec une autre structure d'une institution, une entreprise qui a la prestation, le rendre service à quelqu'un comme son objectif principal dans les statuts. Mais naturellement, l'autre partie, la partie subjective, la partie de la création, elle n'est pas... On ne peut pas s'approcher de ça sans reconnaître la spécificité et le profil de cette partie qui est quand même l'objectif principal de toutes nos activités. Et notamment un théâtre, c'est une institution qui fait des productions, qui a produit, dont l'un est différent de l'autre. C'est tous des pièces uniques et vous ne pouvez jamais faire des bénéfices. Contrairement au théâtre commercial comme au Broadway, par exemple, aux États-Unis, ou en certains théâtres au West End de Londres, par exemple, qui ont justement une autre orientation. Mais le théâtre subventionné, qui est tout à fait qui vient de l'héritage des cultures européennes, c'est quelque chose qu'il faut absolument préserver, parce que c'est que par ça. On a régulièrement des créations, on peut régulièrement se permettre d'expérimenter, même avec du répertoire peut-être oublié ou peu connu. Tous ces vagues dont on parlait tout à l'heure auraient été impossibles de se développer sans avoir une structure subventionnée.
Est-ce que l'investissement aussi n'est pas sur le plus jeune public, c'est-à-dire réussir à absolument régénérer en permanence son public?
Absolument. Alors justement, là, il y a des investissements à faire à plusieurs plans, notamment pour animer, pour stimuler aussi le changement de génération. Également, il faut
surtout en plus pour un monde comme l'opéra, avec les clichés que ça comporte, de places inabordables, trop chères. On sait qu'il y a un certain public qui est toujours un peu réticent d'aller à l'opéra.
Vous avez tout à fait raison. Je trouve aussi il y a un phénomène qui me frappe toujours, c'est l'opéra dans pas mal de pays, notamment en Italie, c'est un art populaire. Mais si vous regardez l'Italie, à chaque ville de plus de je sais pas, 30, 40 000 habitants, il y a un théâtre. Et l'un est plus beau que l'autre. Mais ils sont vides. On ne joue plus parce qu'ils ont détruit les structures. Et alors, vous avez un peuple qui a avec une tradition extraordinaire, et vous avez quand même un répertoire qui est connu. Même si vous êtes en Italie, vous trouvez pas mal de... Si vous montez dans un taxi, vous avez pas mal de gens qui savent ce que c'est, la Traviata de Verdi, Rigoletto ou autre chose. Et alors, c'est carrément un art populaire, mais on le fréquente plus. Contrairement en France... Et en Allemagne surtout, l'opéra est considéré comme un art élitiste. Et justement, il faut faire des investissements là pour un travail pédagogique, un travail aussi de la communication pour combattre ces clichés et pour élargir l'accès à quelque chose qui est un élément principal de notre patrimoine, et dans les deux pays que je viens de citer.
Alors dans votre emploi du temps, j'imagine très chargé, ce qui vous reste, est-ce que le mélomane a encore du temps pour aller voir des opéras qui ne se déroulent pas à Genève, d'écouter des disques qui ne sont pas de l'opéra,
On a peut-être pas suffisamment de temps, mais c'est quelque chose qui me préoccupe souvent. Alors quand je me déplace, même, j'essaie toujours de voir.
Vous êtes dans un avion, est-ce que vous avez un casque sur la tête avec un iPod?
Non, pas du tout, pas du tout. Non. C'est-à-dire ça, non, non, non. Mm. Et en plus, le CD ou tout ce qu'il y a comme support technologique aux musiques, moi, je l'utilise plutôt comme outil d'information. Oui, mais quand je suis à la maison, dans la voiture, en long voyage, j'ai le plaisir quand même d'écouter les CD pour le plaisir et pour l'intérêt. Mais le spectacle vivant, soit le concert ou le théâtre, pour moi, c'est irremplaçable. Et parce que la sensation d'un spectacle, où on est toujours, on ne sait jamais ce qui va se passer. Moi, je dirais, quand on va à un concert, quand on va à un spectacle, quand on crée un spectacle, on est toujours à la recherche de quelques moments de mystère. C'est quelque chose qui est inexplicable. Et quand on est touché, il peut s'agir que de quelques secondes. Quand on a cette sensation pour le moment d'assister à quelque chose d'exceptionnel, c'est quand même un bonheur extraordinaire. Et je trouve le spectacle vivant alors les vibrations entre ceux qui sont sur la scène ou que ceux qui sont dans la fosse et le public, et des fois c'est des odeurs, des fois c'est quelque chose qu'on voit, mais l'ensemble, c'est que le théâtre, vous trouvez ça.
On vous souhaite bonne chance et bon courage pour cette seconde saison. Merci beaucoup Tobias Richter.
Merci beaucoup.
Cobuzz.com Rencontre par Marc Zisman.